Bonsoir les amis des livres et des apéros. Les travailleurs précaires seraient soumis, résignés à leur sort, qui consiste à travailler toujours plus pour gagner toujours moins. Intermittents, intérimaires, chauffeurs ou coursiers, ils pédalent tous la tête dans le guidon, habitués à subir la pression du rendement. Ils sont pleins autant qu'exploités, avec l'idée embusquée que c'est un peu de leur faute aussi, hein, ils avaient qu'à faire des études. Mais ça va pas, non, mais oh, tonne la littérature, mais c'est Dupont-Mono, mais c'est une intérimaire de la pensée. Mais regardez du côté des livres, si les précaires ne sont pas de grands personnages. Les poèmes médiévaux racontent tous un cerf, le précaire du Moyen-Âge, qui fait un coup pendable au seigneur. Jean Valjean dans Les Misérables, il fut émondeur, aide-jardinier, avant de devenir industriel et de refuser la Légion d'honneur. Belle revanche de la France d'en bas. Quant aux précaires de Germinal, d'Émile Zola, ils finissent par castrer leurs exploitants. Vous appelez ça résigné? Et s'il fallait encore une preuve, elle est là, elle s'appelle Révolution. Ce roman noir déjanté que n'auraient pas renié les Monty Python est signé Sébastien Gendron. Il est paru chez Albin Michel. Il s'appelle Georges, il a 45 ans, un diplôme d'ingénieur informaticien, mais il est intérimaire. Un jour, une boîte de nuit l'appelle, il faut réparer les ordinateurs. Georges pousse la porte de la discothèque et quand il ressort, il laisse derrière lui deux cadavres et la vague sensation que sa vie lui échappe. Elle s'appelle Pandora, elle a 40 ans, des études de commerce, mais elle est intérimaire. Un jour, elle décide, je cite, qu'il est temps pour elle soit de faire autre chose de sa vie, soit de s'acheter un flingue. Alors, elle fait d'abord l'un et puis l'autre. Georges et Pandora décident de bloquer l'autoroute à la fin juillet avec des armes et un ordre, faites la révolution. Ils se tiennent sur le bitume poisseux, exhortant les automobilistes ébahis à sortir pour se rebeller. Mais est-ce qu'un vacancier a très envie de monter des barricades? Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Sébastien Gendron, meilleur qu'un sandwich sur une aire d'autoroute, c'est promis. Nous passerons le péage de ses secrets d'écriture, ce sera le procès-verbal. Il nous livrera ses vices culturels, ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, notre unique carburant, nous fasse rouler vers de beaux lendemains.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Sébastien Gendron.
Bonsoir Clara.
Révolution, alors c'est le titre de votre roman, c'est aussi celui du livre d'Emmanuel Macron, sorti cet hiver. Comment vivez-vous cette proximité?
Quand il a été question de donner un titre à ce bouquin qui de toute façon s'appelait dans le manuscrit Révolution, j'ai pas reculé. Et quand on m'a dit Macron a écrit un bouquin qui s'appelle de la même manière, j'ai passé la première, la deuxième, la troisième, j'ai dit on y va à fond.
Alors, ça n'est pas tout à fait la même révolution. En quoi consiste la révolution de Georges et Pandora?
La révolution de Georges et Pandora, c'est de forcer les gens à faire la révolution. Ils sont deux. Voilà. Ils sont juste deux et ils ont un pétard. Et le principe, c'est de se mettre le pétard sur la tête et de dire on ne bougera pas d'ici tant que vous n'aurez pas fait la révolution. Et si jamais vous tentez de nous déloger de là, on se tire une balle dans la tête. Voilà, on n'a rien à perdre. Voilà. Par contre, vous avez peut-être éventuellement tout à gagner.
Mais cette idée pas très commune hein, de deux intérimaires qui bloquent une autoroute, elle vient d'où?
Oh là, alors c'est une vieille idée qui vient à l'origine du film de Sidney Lumet Network, dans laquelle en fait le présentateur star de la chaîne ABC va être licencié et il dit le dernier soir de son journal « Dans 15 jours, je me flingue » en direct à la télé. Et donc du coup, ça buzz. Donc les producteurs lui donnent l'antenne tous les jours pour faire un billet d'humeur, celui qui veut, carte blanche, de toute façon ils s'en foutent, ils font de l'eau du mat. Et à partir de là, ils commencent à haranguer en fait les Américains en leur disant « mais vous pouvez pas rester comme ça les bras ballants, révoltez-vous ». Et puis ça commence à prendre lentement, lentement. J'adore le cinéma américain des années 70 et ça m'a donné cette idée-là en fait. Et puis j'avais une espèce de vision d'une nana avec un flingue sur la tête, sur l'autoroute, et puis ça... Ça a mis 15 ans à mûrir, et puis voilà.
Il y a l'idée aussi des losers associés, l'idée du précaire plus le précaire, qui donne finalement une vraie force. Est-ce qu'il y avait une volonté un peu de rendre hommage à ces oubliés?
Mais de toute façon, moi, tous mes personnages sont des losers. Moi, j'adore ça. J'adore les gens qui perdent, j'adore les gens qui sont au fond du bassin. Il y a pratiquement que ça qui m'intéresse dans les personnages. Un que je lis, ça fait partie de mes lectures d'adolescents et d'étudiants, tous les Américains, les John Fante, les Brottigan. C'est jamais des gagnants, ça m'intéresse pas les gagnants. Et Monsieur Muscle et tout ça m'ont jamais vraiment intéressé. Donc oui, je préfère les oublier, oui, j'ai plus de trucs à dire.
Pandora, elle n'est pas loseuse sur tous les plans, elle a un côté un peu Rosa Luxembourg de l'asphalte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas vraiment froid aux yeux.
toi tout de suite. Est-ce que t'as l'intention de foutre encore le bordel en présence de ma petite puce? Si ça peut te rassurer. Je n'ai pas du tout prévu de te tuer sous les yeux de ta fille.
Finalement, t'es beaucoup plus raisonnable que je le pensais, contrairement à ce que Bill a pu dire.
Je suis sans pitié, sans scrupule, sans compassion et sans indulgence. Pas sans intelligence.
Est-ce que vous avez pensé, Sébastien Gendron, aux héroïnes de Tarantino, comme dans Kill Bill, qu'on vient d'entendre en 2003, pour fabriquer Pandora? Est-ce qu'il y a un peu de cet ADN-là?
Bah, de toute façon, il fallait que ce soit une nana qui soit caparaçonnée de tout un tas de trucs. Je voulais pas que ce soit quelqu'un qui soit extraordinairement vainqueur, mais en tout cas qu'elle la répartie, qui soit capable, elle aussi, de sortir les peu de muscles qu'elle avait, une volonté de faire... Et puis surtout, arrêter de se faire avoir tous les jours. Donc, des deux, de toute façon, dans le couple qui va se créer, il y avait qu'elle qui pouvait réagir, il y avait qu'elle qui pouvait... Je trouve qu'en fait, que les femmes ont tellement rien à perdre aujourd'hui, encore plus, enfin, elles n'ont jamais rien eu à perdre. Donc finalement, il faudrait qu'on se méfie, parce qu'elles sont peut-être hyper dangereuses.
Oui, mais vous n'avez pas tort, parce que dans votre livre, la révolution, elle passe par les femmes. Si on dit deux petits mots sur Georges, qui est son compagnon, il fait, lui, la révolution par amour pour Pandora. Mais il est moins courageux, il est moins impliqué qu'elle.
De toute façon, lui, l'histoire qui lui arrive au début de mon roman, il se laisse complètement faire. Il a un coup de bol quand même monumental pour éviter de se faire tuer. Voilà, il arrive à avoir du bagou pour. L'autre, elle a une volonté d'acier. J'ai mis longtemps à faire des personnages féminins aussi, enfin à faire un personnage féminin aussi lourd, parce que je n'y étais pas encore. Et en fait, non, c'est sûr. Vous êtes mille fois plus forte qu'on ne le sera jamais.
Il faut aller expliquer ça à tous les employeurs, à tous les hommes politiques, qui ne pensent pas tout à fait la même chose. Vos personnages auraient pu tenir un discours politisé, un discours un peu zadiste, comme celui-ci par exemple.
Nous, on est là, on va rester là, quoi. S'ils nous attaquent, on reviendra. S'il y a une intervention ici, il y aura dans l'heure des milliers de gens qui viendront s'opposer physiquement aux machines, puis des actions décentralisées partout en France, dans les 200 comités de soutien. Ça prendra tout type de forme, depuis des manifestations, des rassemblements, mais aussi des blocages pour empêcher l'arrivée de la police, mais aussi pour effectuer des blocages économiques dans la région, mais aussi ailleurs en France.
On vient d'entendre les revendications d'un zadiste. Et vous, non, Sébastien Gendron, vous n'avez pas politisé le discours de vos personnages. Pourquoi ?
Ben, au départ, j'étais vraiment parti sur une grosse documentation, justement, sur le discours révolutionnaire dans, du XXe siècle, notamment. Je me suis fait pas mal aider pour ça. Et puis, au bout d'un moment, j'arrivais avec une espèce de somme de documents. Et je me suis dit, mes personnages... ils sont comme moi, en fait. Chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, toutes les horreurs qu'ils voient, les révoltent. Mais ils n'ont pas en tête toute cette idéologie hyper fabriquée, avec une grosse littérature derrière. Donc j'ai tout mis de côté et je me suis dit, il faut juste qu'ils y aillent avec leurs tripes, avec ce qu'ils subissent tous les jours, et puis qu'ils trouvent les mots qu'on entend dans la bouche des gens qui sont justement pas syndiqués forcément, pas forcément politisés, mais qui ont des choses à dire sur l'instant, sur leur révolte immédiate et imminente. Donc c'était ça qui m'intéressait en fait.
C'est l'idée que la révolution peut être accolée à un sentiment et non pas à une idéologie.
Ouais, carrément, carrément. Parce que à un moment donné, c'est juste pas possible de... Les gens qui ont pété les plombs sur Air France, qui ont déchiré cette chemise et tout ça, avant il y avait eu une rencontre avec les syndicats, avant il y avait eu du discours politique. Et puis à un moment donné, il faut passer juste à l'action, quoi. Donc soit c'est à travers des mots qui sortent du ventre, soit c'est à travers des gestes. Voilà. Et pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Pandora, elle fait un... C'est même pas un happening, c'est même pas pensé. Ils se préparent en 24 heures de temps, quoi, pour faire leur truc. Elle a une idée, elle a un flingue. On y va. On réfléchit pas, on y va. De toute façon, il faut arrêter de réfléchir à un moment donné aussi, quoi.
Il y a quelques irruptions idéologiques dans votre roman, mais pas très tendres, notamment avec Nuit Debout. Vous écrivez, alors c'est Pandora qui parle, Nuit Debout, mais c'était un truc à la con. Ça rejetait le leader, ça discutaillait pendant des plombes. Résultat, c'est devenu que dalle, à part un produit pour animer les sommaires du JT de Pijadas, un vrai truc de tiède.
Bah oui.
On embrasse tous nos amis de Nuit Debout.
Non mais je les embrasse aussi, les amis de Nuit Debout, mais c'est vrai que... On n'en est plus à ça, là. Ça, faut, à un moment donné, un peu plus tard, elle parle de se faire éjecter par des fichoumis, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, les mecs, ils, c'était sympa, Nuit Debout, mais ils réduisaient le discours à 3 minutes. Fallait, en 3 minutes de temps, fallait exposer sa révolte. Mais ça veut dire quoi d'exposer sa révolte en 3 minutes? À part, à un moment donné, avoir les héritiers de mai 68. Alors, bon, il y en a certains qui disent des trucs extrêmement justes et extrêmement vrais, c'est sûr. Mais je veux dire, à un moment donné, on n'en est plus à écouter des discours politisés, syndiqués, etc. Avec même tout le respect que je puisse avoir pour ces gens-là. Mais à un moment donné, voilà, Pandora, elle prend les armes.
Est-ce que vous apparentez Pandora et Georges à des lanceurs d'alerte ?
Ouais, ça, j'ai plus de sympathie pour ça. Ça, c'est certain. Ouais. J'ai plus de sympathie pour effectivement des gens qui, à un moment donné... En fait, c'est assez étonnant. Dans cette société, on donne des responsabilités et on fait passer tas d'informations à des gens qu'on maltraite. Et on s'imagine pas 2 secondes qu'ils pourraient récupérer tout ça pour se venger ou en tout cas pour alerter les gens autour en disant « Attendez, moi ça va, je touche un smic et demi tous les mois et on me fait passer des tas de trucs et en plus on me maltraite. Vous imaginez quoi ? Qu'à un moment donné, je vais pas récupérer la manne et puis la faire passer ?» Donc oui, je pense qu'effectivement, ouais, les deux là, c'est des lanceurs d'alerte malgré eux. Mais ouais, je pense que ça m'intéresse un peu plus. Ouais.
C'est aussi un couple et il y a une rencontre mémorable entre Georges et Pandora qui se termine en valdingue dans les toilettes. Mais c'est une rencontre incroyable. Pourquoi est-ce que vous vous êtes appuyé sur l'idée du couple ? Parce qu'ils font penser un peu à des Tristan et Iseult du bitume. Il y a un côté un peu Bonnie and Clyde aussi. Vous auriez pu en faire de bons copains. Vous auriez pu en faire des colocataires, un frère et une sœur. Pourquoi vous vous êtes appuyé sur l'idée de l'amour fou, en fait, qui les unit ?
Bah, ça, c'est le côté un peu, peut-être un peu personnel. Je me dis qu'à un moment donné, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une étincelle. Donc, c'est vrai que ça m'intéressait, cette espèce de côté un peu baba. Bah ouais, je te suis. Voilà, fais ce que tu veux, je te suis. Et puis, je t'aime tellement que un flingue sur la tête. Pas de problème. La révolution, si tu
on y
veux,
va.
On arrête des milliers de personnes. Oh ouais, ok, allons-y.
Sans compter que l'amour est aussi le creuset de toutes les révolutions. Ça, c'est une phrase de journaliste. Non, mais n'y répondez même pas, ça, c'est débile. En tout cas, nous, on visualise la scène. Georges et Pandora, debout sur le bitume avec 35 degrés. Pour vous, Sébastien Gendron, on a pensé au Berrurier Noir, ce groupe qui a chanté avec masques à gaz, fait des doigts d'honneur, secoué les puces des années 80. C'est Salut à toi dans la Muse-Bouche.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui es Chepon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui es au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Monodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des Immodites jusqu'à l'Écosse, salut à vous.
goût tous les ajouts. Salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du président, salut à toi la vache qui rit, salut à Lorraine et Arby, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les vertigoles, salut aussi à Hugh Reiner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier.
Sur France Inter.
Sébastien Gendron est avec nous jusqu'à 20h pour son roman Révolution, un roman noir foutraque, très drôle, haletant, qui raconte l'histoire d'un couple d'intérimaires, Pandora et Georges, qui stoppent une autoroute des vacances pour exhorter les vacanciers à faire la révolution.
Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que maintenant, il y en a marre! Il y en a marre, il faut que ça cesse parce que vous êtes comme moi. Vous êtes mal payés, vous êtes mal considérés. Là-haut, il n'y a plus personne qui s'occupe de vous. Il est temps que la meute hurle parce qu'on est tous des punks à chiens. Tous. Alors si comme moi, vous voulez taper un grand coup, rendez-vous ce soir au parking, à l'ancien parking du Roi Merlin, à 20h. Vive la République.
C'est le grand soir. Le film de Gustave Kervern est sorti en 2012. Personnellement, qui est un de mes petits fétiches. Dans votre livre, Sébastien Gendron, c'est pareil. Ils sont un peu tout seuls, Georges et Pandora. Et personne ne sort de sa voiture pour faire la révolution avec eux. Comment est-ce que vous expliquez cette inertie?
D'abord, ils sont partis d'une idée à la con. J'adore écrire comme ça, avec une idée à la con de départ. Et surtout, ils se sont pas rendus compte d'un truc, c'est que déjà, quand on monte dans sa bagnole, on n'est plus soi-même, c'est-à-dire qu'on est capable d'être très 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 con. Et en plus, quand on monte dans sa bagnole pour partir en vacances à 4h du matin, on est 3000 fois plus con que quand on va au boulot. Donc,
Alors attendez, on peut juste aussi avoir envie d'arriver à la grande motte tranquille et de pas spécialement avoir quelqu'un qui vous stoppe l'embouteillage avec 40 degrés au-dessus.
Bien sûr, vous noterez tout de même que si par hasard, quand vous prenez la route pour la grande motte, il s'avère que sur la voie d'à côté, dans l'autoroute qui part dans l'autre sens, il y a un accident de bagnole, vous allez ralentir pour regarder. Donc vous n'êtes pas si pressé que ça a priori. Donc bon, bref, vous avez un réflexe humain de un peu voyeur. Donc voilà. Ils partent un peu d'une idée à la con et évidemment en face d'eux ils ont affaire à des gens qui sont alors un pas du tout prêts évidemment à faire la révolution, ils pensent qu'un truc c'est aller à la plage, et deux vous attendez, en fait les gens sont assez dans ces cas-là, vous avez un ralentissement, les gens sont très fatalistes sur la route des vacances ou même quand ils rentrent du boulot sur le périphérique parisien notamment. Il y a un ralentissement, voilà. Puis on s'arrête, et puis on attend pendant des plombes dans sa bagnole. Et puis on fait pas grand-chose, et on est là, et on râle dans son coin, on emmerde sa femme, on engueule ses gosses. Mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire.
Quelqu'un demande à Pandora, ça fait 6 heures que vous êtes là, et l'Élysée ne brûle toujours pas. Elle répond, ça fait 6 heures que je suis là, et personne n'est venu me déloger. Est-ce que ça veut dire qu'elle table sur une prise de conscience?
Elle espère que les gens, à un moment donné, vont en avoir tellement marre qu'ils vont finir par l'écouter. Mais encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est bercé par aucune idéologie politique, c'est juste bercé par un espoir.
Georges et Pandora entendent aussi certains automobilistes les rabrouer. Ils n'ont pas de très bonne réputation, ces travailleurs précaires. Et ce point de vue était aussi celui de François Rebsamen quand il était ministre du Travail, à propos des sans-travail pour le coup.
Moi, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur, au sens du Bureau international du travail, on recherche un emploi. Et donc, je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi.
Et Pôle emploi a les moyens de renforcer
bien sûr, 4000
ces contrôles. Concrètement, ça représenterait quoi? C'est plus de rendez-vous pour les demandeurs d'emploi, plus de coups de fil. Enfin, comment ça se passerait concrètement, renforcement?
Un état d'esprit différent, des convocations et des vérifications.
Sinon
Sinon, on est radié.
Voilà. Les précaires, qu'ils soient chômeurs ou intérimaires, ont mauvaise réputation. François Rebsamen, qu'on vient d'entendre, le confirme. Comment l'expliquez-vous, Sébastien Gendron, cette mauvaise réputation?
Parce que de toute façon, on part toujours du principe que les gens qui ne travaillent pas passent leur journée à boire de la 8-6 dans leur canapé en regardant des conneries à la télé. Voilà, ça c'est dans la tête des politiques et c'est surtout pour faire plaisir au peuple qui lui travaille. Alors, moi ce que je trouve toujours aussi sidérant, c'est que par contre, on trouverait des gens à Pôle emploi pour enquêter sur les chômeurs qui ne branlent rien de la journée. Et par contre, on ne trouverait pas d'inspecteur du travail pour aller voir les gens qui exploitent d'autres personnes à mauvais escient pour les faire bosser plus qu'ils ne les payent. Bon, moi, c'est la parole des politiques, là. Et c'est vrai que, à chaque fois, les bras m'en tombent. Voilà.
Il y a un moment de tension dans votre roman, c'est celui où un groupe d'automobilistes, alors pour le coup très remonté, décide de prendre Pandora au pied de la lettre et ils vont castagner les gens qui sont dans des belles voitures. Et là, la révolution, elle perd un peu de son lustre. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cet accès de violence qui contamine comme une espèce de houle tout l'embouteillage?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, le seul personnage qui est capable, a priori, d'organiser quelque chose, comme par hasard, il a une vision très facho de cette révolution. C'est-à-dire qu'il a entendu un truc, c'est les patrons qui sont les mauvais, machin, donc en fait, il va cibler les bagnoles. Mais, oui, c'est-à-dire à un moment donné, c'est un peu comme s'il y avait des gens qui se disaient, on va lui faire plaisir, on va lui amener deux, trois trucs à brûler, et puis on va peut-être s'en débarrasser. Moi, la question que je pose dans ce bouquin, au bout d'un moment, c'est, vous êtes prêt à faire la révolution, d'accord, mais avec qui? Est-ce que vous êtes capable de faire la révolution avec ce mec là-bas qui vous traite de connasse, avec ce mec là-bas qui s'en prend aux Arabes, avec ce mec là-bas qui s'en prend aux chômeurs? Avec qui il faut faire la révolution, en fait? Elle part d'où, la révolution? Il faut faire la révolution pour arriver à quoi? Donc avec qui on l'a fait?
Et donc voilà, c'est... comment une bande de castagneurs pervertit un idéal révolutionnaire. Votre plume, Sébastien Gendron, elle se promène un peu comme une caméra, d'abord autour des voitures et dans les habitacles. Et donc on découvre le brave petit couple en camping-car, des jeunes, et puis d'autres exploités d'ailleurs. Est-ce que l'embouteillage vous sert de concentré de la société, espèce de kaléidoscope social?
Il l'est clairement. Sur la route des vacances, vous avez à peu près toutes les populations possibles qui sont représentées, à part les très très riches qui partent en hélicoptère ou en avion beaucoup plus loin que ça. Mais tous les gens qui partent bosser tous les jours, qui font, j'en parlais tout à l'heure, des embouteillages sur les périphériques ou aux portes de Paris ou à Bordeaux d'ailleurs, hein, sur le pont d'Aquitaine, sur la Rocade, vous avez un portrait de la société qui bosse, qui va faire ses courses, qui prend sa bagnole alors qu'il y a des transports en commun. Donc vous avez comme ça une espèce de... Comme un nuancier de la société avec toutes les castes sociales qui sont représentées, qui râlent à peu près pour les mêmes choses, mais qui bougent aussi peu les uns que les autres. Voilà.
La police intervient et tente de neutraliser Georges et Pandora. Ils sont pas très au point. C'est un peu des guignols, hein. Mais, oh, sympathique. C'est-à-dire que vous êtes pas dans le cliché de l'affreux policier. Ça change. Ça vous a pas démangé la plume à un moment de faire un policier concon et brutal?
Il y en a un qui est concon et brutal, mais celui qui finit par essayer d'agir à un moment donné. Mais c'est toujours pareil. Ça m'intéresse pas de faire des personnages ultra positifs, comme ça m'intéresse pas de faire des personnages ultra négatifs. Dans les deux cas, de toute façon, c'est de la caricature. Donc en fait, cette espèce de flic qui va agir, qui au départ est un espèce de gros méchant dont on se dit, oulala, faut se méfier parce que c'est peut-être un gros faf. En fait, lui-même, il a un espèce de passif. Dans les années 70, il est parti au Chili, il a ramené un clébard aveugle, une femme. Voilà, lui aussi, il est passé par des tas de périodes. Enfin bon, en fait, c'est juste un être humain, quoi, comme beaucoup de flics. Je vais pas dire tous les flics, je vais me faire des ennemis. Mais
n'allons pas non plus trop loin dans une forme d'honnêteté. Mais il y a un autre cliché dans lequel vous n'allez pas, et je vous remercie, ce sont les journalistes. J'ose à peine la question, mais est-ce que c'est le signe d'un peu d'estime de notre profession? Parce que le personnage de la journaliste, elle est pas mal quand même.
Le personnage de la journaliste, elle est pas mal. Elle est une représentation aussi de ce qu'est aujourd'hui le monde du journalisme. Pour avoir un peu traîné mes guêtres là-dessus, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont pigistes, qui achètent leur matériel, qui font des images de merde parce qu'ils ont pas le temps alors qu'ils ont des idées de plan plein la tête. Ils auraient voulu certainement faire autre chose et certainement mieux. Voilà, donc Magali Tassar, le personnage en question, qui trouve son scoop et qui va peut-être faire une carrière avec ça. Derrière, elle aussi, ça grince un peu. Elle aussi, elle a des problèmes. Elle aussi, elle est un peu sur la balance entre les deux. Est-ce que je fais un scoop? Est-ce que je les aide? Est-ce que, voilà.
Tout ça étant servi, il faut quand même le dire aux auditeurs, par une plume qui est très marrante, que n'aurait pas détesté Michel Audiard. Vous avez un côté un peu swingant de l'écriture qui est assez marrant. Et bien justement, Sébastien Gendron, vous allez pouvoir nous livrer les secrets de cette écriture, puisque c'est l'heure du procès verbal. Votre nom ?
Gendron.
Votre Gendron. Votre prénom ?
Sébastien.
Vous écrivez assis, couché ou debout ?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Sur ordinateur exclusivement.
Chez vous ou au café ?
Là où je peux poser mon ordinateur sur mes genoux, mais souvent chez moi quand même.
Grand silence ou musique derrière vous ?
Silence absolu.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez ?
Ma bibliothèque, c'est très intimidant.
Avez-vous un rituel avant de vous mettre à écrire, boire un verre de whisky, stopper une autoroute
Non,
non, c'est... un petit rituel avant de vous mettre à écrire.
Du café, du café, du café, du café, toute la journée.
Le téléphone sonne. Vous êtes en pleine rédaction d'un chapitre. Est-ce que vous décrochez ?
Si c'est mon éditrice, oui. Si c'est ma femme, souvent. En dehors de ça, non.
Et lorsque vous décrochez, vous êtes d'une humeur de dog ou la politesse résiste ?
Non, la politesse résiste. Je suis un gentil garçon.
Est-ce que vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant ?
Oui, j'ose le dire. Oui, ça m'arrive. Oui,
alors, ça de m'arrive. Pleurer ou d'éclater de rire ?
Les deux. Quand j'arrive à faire une scène triste qui m'émeut, j'ai la larme à l'œil. Ça, c'est vraiment incroyable. Et de temps en temps, ça m'arrive d'avoir un dialogue qui me fait marrer ou une situation qui me fait marrer. Ouais.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi ?
Elle va ressembler au moment où je me lève pour aller mettre une capsule dans ma machine à café et allumer une cigarette.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde avant de vous mettre à écrire.
Vous me prenez vraiment de court là. Un mot, la seconde avant d'écrire, une respiration.
Un mot pour la seconde qui suit le point final.
Une expiration pour le coup.
Merci Sébastien Gendron, vous êtes libéré au moins du procès verbal, c'est déjà pas mal. Revenons à Georges et Pandora qui luttent contre la loi du marché. Certains la chantent, cette loi du marché, par exemple Bernard Lavilliers et Cyril Mokayesh.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endetté, endetté, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière à des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. Frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. distrait pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller? De quoi vous distraire et vous en aller?
Vous écoutez la Musebouche qui a pour invité Sébastien Gendron pour son polar décapant Révolution. Alors, Sébastien, s'il y en a à qui on ne va pas apprendre à la faire, la Révolution, ce sont les libraires. Ils la font tous les jours, la Révolution, en se bagarrant pour les livres. Et alors, figurez-vous que ces révolutionnaires, c'est très bizarre. Ils ont une drôle d'habitude, ils appellent la Musebouche. Et je ne sais pas pourquoi. Et en général, c'est... Oh, oh.
Comme ça tombe bien.
Quelle drôle de sonnerie. Allô ?
Oui, bonsoir, j'appelle pour l'apéro.
Bonsoir, ne seriez-vous pas Marion Henriot de la librairie, laissez-moi deviner, des Danaïdes et... à Aix-les-Bains, je dirais.
Tout à fait.
Bonsoir Marion.
Bonne pioche. Bonsoir Clara.
Et ne seriez-vous pas libraire depuis même pas 2 mois ?
C'est tout à fait ça, Clara, vous êtes bien renseignée.
N'est-ce pas ? Alors Marion, quelle est la situation la plus cocasse ou la plus craquante que vous avez vécue dans votre boutique ?
Alors écoutez, justement... Donc, comme vous le disiez, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais la semaine dernière, il y a une toute jeune fille d'une dizaine d'années qui est entrée dans la librairie d'un pas très décidé et qui s'est dirigée directement vers le rayon jeunesse à l'étagère manga. Et elle a pris les 2 derniers tomes de Fairy Tail, qui est un manga très prisé par nos ados aujourd'hui. Et elle est arrivée à la caisse et là, elle a sorti sa bourse. Alors, au bruit et au volume de la bourse, on devinait tout de suite qu'il n'y avait aucun billet, mais que de la piécette.
Que des 5 centimes.
Voilà, voilà. Alors, on a compté toutes les deux, si le compte était bon, laborieusement, et catastrophe, il manquait environ 25 centimes.
Oh.
Alors là, j'ai vu son visage s'assombrir.
Bah, je comprends.
Et elle a dit d'un air dépité, bon, ben, c'est pas grave, je vais en prendre qu'un. Oh. Et là-dessus, Bénédicte, qui est la responsable de la librairie, se glisse derrière moi et discrètement me dit à l'oreille... Mais fais-lui 5%, on fait souvent ça quand des jeunes viennent et qu'arrivé en caisse, il manque quelques centimes. On lui fait 5%, il manquait encore quoi, après quelques centimes, et on lui dit, bon, mais ok, c'est bon, vas-y. Et là, un sourire a illuminé son visage et elle est repartie toute fière et conquérante. Et moi, c'est une histoire qui m'a vraiment réchauffé le cœur. Parce que, voilà, je pense que l'accès à la culture, c'est indéniablement un vecteur de liberté et de changement potentiel du monde. Parce que quand on lit, ben on réfléchit, donc on se respecte et on se fait respecter.
Sébastien Gendron, est-ce que cette histoire vous vrille le cœur ?
Si les patrons de supermarché vous entendaient et autorisaient les glaneurs à piquer la bouffe qu'on jette tous les jours dans les grandes poubelles des supermarchés tranquilles, voilà, on ferait acte de militantisme à pas grand-chose. Donc bravo.
Ouais, et on n'en ferait pas là, ouais. On est bien d'accord.
Marion, quel est le roman que vous conseilleriez à notre invité Sébastien Gendron ?
Alors écoutez, j'ai lu une interview de Sébastien Gendron parce que malheureusement j'ai pas encore eu le temps de lire son livre. Et donc moi j'ai choisi un livre qui a priori semble assez éloigné, il s'agit des gens dans l'enveloppe d'Isabelle Bonin, qui vient de sortir en lèvres de poche. Mais donc c'est pas tout à fait la même thématique parce que c'est pas des précaires, mais c'est des humbles, c'est des modestes. C'est
des petites gens.
Voilà. Pour pitcher le livre assez rapidement, elle a comme ça acheté des photos de famille sur Internet. Elle a reçu cette enveloppe de photos des années 70 avec les scènes typiques au camping, devant le chalet, avec les papis, les mamies. Et elle s'est complètement imprégnée de ces personnages et elle est partie dans un projet un peu fou. C'est d'imaginer d'abord leur vie à partir de ces photos, dans un deuxième temps, de mener l'enquête, et dans un troisième temps, de les rencontrer. Et moi, ce livre, j'en ai eu une lecture politique, parce qu'en fait, oui, ces gens ne sont pas des précaires, mais des modestes, et en fait, en ayant cette attention envers eux, elle redonne de la vie et de l'humanité aux humbles, et je trouve qu'aujourd'hui, où c'est pas parce qu'on est issu d'un milieu modeste que sa vie a moins de valeur, que tout homme ou femme est un héros ordinaire, quelle que soit sa naissance et son statut social.
Eh ben, dites-moi, si c'est pas un manifeste de révolution, Sébastien Gendron, c'est...
Je note. Les gens dans l'enveloppe, merci beaucoup.
Voilà. Ouais. Oui, Marion, vous nous redites juste l'éditeur, c'est paru au livre de poche, hein.
C'est paru au livre de poche et en plus il y a un petit bonus musical puisque elle a collaboré avec Alex Baupin qui a écrit des chansons sur cette histoire et où il fait même chanter des gens dans l'enveloppe.
Merci Marion Henriot de la librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains. Merci au révolutionnaire magazine Page, la revue des libraires partenaire de la Muse-Bouche. Marion, on vous attend pour boire à la santé des idéaux, des autoroutes bloquées, puis des petites filles qui ont des piécettes de 5 centimes et des toutes petites gens et des grands gens aussi. Venez trinquer quoi.
Avec grand plaisir,
À tout de suite.
Au revoir.
Au revoir.
C'est l'heure des inavouables. Eh bien oui, Sébastien Gendron, on a beau être le roi des révolutions sur Macadam, on n'en est pas moins homme, hein. Homme de gauche, de surcroît, donc faillible.
Et faible.
Y a-t-il une chanson, un film, une série estampillée ringard, j'ai bien dit estampillée, hein, et que vous aimez en toute discrétion?
Alors, un film,
ouais.
Par exemple, Sharknado.
Sharknado.
J'avoue une passion coupable pour Sharknado.
Ah bah vous pouvez, hein, parce que Sharknado, si je résume pour l'auditeur, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un film qui racontait une attaque de requins par les airs.
Oui, alors tout est dans le titre. Shark, requin, nado, tornado. Donc il y a une tornade qui embarque des requins dans les airs et qui se réabattent tous sur Los Angeles.
Au lieu de laisser pleuvoir des requins vivants sur la tête des gens, on va monter dans l'hélicoptère et balancer des bombes au cœur des tornades.
Accroche-toi !
On ne peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Claudia, attention !
Il est temps de lever l'encre, mon pote.
Touchez-vous !
Diffusé en juillet 2011 sur la chaîne américaine Sci-Fi. Et alors, à la fin du film, le mot « fin » donc apparaît en français.
Oui, parce que, c'est très bizarre parce que, alors, il faut voir ce film, tant qu'à faire, doublé en français, pas sous-titré, ça sert à rien. Parce qu'en fait, souvent, c'est des doublages qui sont pas français, c'est des doublages québécois. Voilà. Donc, c'est encore mieux, vraiment, de le voir en version québécoise,
oui.
C'est absolument génial. Et il y a une image absolument fantastique avec un requin qui tombe sur un mec qui a une tronçonneuse dans la main et le requin l'avale, mais il sort du ventre en l'ayant tronçonné d'un bout à l'autre. C'est génial.
Sébastien Gendron, y a-t-il un classique qui vous tombe des mains? C'est-à-dire que c'est un grand classique et vous n'y arrivez pas.
Le Seigneur des Anneaux. J'y suis arrivé, hein. Mais alors, ça a été une des lectures les plus éreintantes depuis Le Rouge et le Noir, je pense.
Et pour quelle raison?
Pour quelle raison?
Bah oui, vous trouvez que c'est trop gommant.
Mais c'est chiant. C'est en plus entrecoupé de paroles de chansons totalement niaises. Ces histoires de gamins. Et je trouve qu'en plus, Peter Jackson, il a fait du coup des films assez chiants quand même. Parce qu'il y a la moitié de chacun des épisodes et c'est comme les bouquins. Quoi. Il y a très peu d'action pour un maximum d'emmerdement.
Eh bien, c'est sur ces paroles définitives que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Coupez vos moteurs, détachez vos ceintures et venez révolutionner. Révolution de Sébastien Gendron est paru chez Albin Michel. La semaine prochaine, nous recevrons Mon ciel et ma terre d'Or Attica, paru chez Fayard. L'amuse-bouche est une révolte à lui seul grâce à Alexandre Fougeron, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Stéphane Boja. Tout de suite après nous, ce sera D'ici d'ailleurs de Zoé Varier. Bonne semaine, n'oubliez pas de lever la tête et de penser barrage de temps en temps, même si vous n'êtes pas de gauche, ça fait du bien. Je vous embrasse, à samedi.